Radio Prague, les informations.
Pavel Blažek sera nommé nouveau ministre de la Justice. Vlastimil Rampula et Libor Grigarek renoncent au poste de représentant du ministère public. La social-démocratie réitère son appel à la démission du ministre des Finances. Le vice-président du Parti civique démocrate, ODS Pavel Blažek, sera nommé nouveau ministre de la Justice mardi par le président de la République. Une information communiquée ce lundi par le premier ministre Petr Nečas, juriste de profession, Pavel Blažek remplacera Jiří Pospíšil, démis de ses fonctions mercredi dernier, par le premier ministre. L'ancien président du ministère public supérieur de Prague, Vlastimil Rampula, et le vice-président du ministère public, Libor Grigarek, ont renoncé à leur poste de représentant du ministère public. L'information a été publiée par le serveur respect.cz et l'agence de presse CTK et a été confirmée par l'attaché de presse du ministère de la Justice, Petra Hruba. Vlastimil Rampula avait été relevé de la fonction du président du ministère public supérieur par le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil. Selon le président du Parti social-démocrate tchèque, Bohuslav Sobotka, le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, doit démissionner. La social-démocratie lui rapproche d'avoir cherché à influencer la police dans l'affaire de l'achat douteux des avions militaires CASA et d'être responsable de l'échec de la stratégie gouvernementale de réduction du déficit budgétaire par une augmentation de la TVA. D'après le chef de l'opposition, Miroslav Kalousek serait également responsable des problèmes liés au versement des subventions des fonds européens. La Confédération tchéco-morave des unions syndicales a présenté à la presse le document intitulé « Vision pour la République tchèque ». Selon le document, il faut réintroduire en République tchèque certaines prestations sociales, renforcer la politique active de l'emploi, assurer la croissance des salaires et préparer une nouvelle réforme des retraites. Ces mesures pourraient améliorer, selon les syndicats, la situation en République tchèque et les perspectives de ses habitants. En 2009, 198 enfants sont morts en République tchèque des suites d'accidents. Si la République tchèque avait adopté toutes les mesures de prévention recommandées par les experts, le nombre d'accidents de l'enfant aurait pu diminuer de 46%. Une déclaration de Veronika Benešová du Centre de prévention des accidents, de la violence et du soutien de la sécurité de l'enfant. La police a inculpé 5 personnes d'avoir agressé dans la ville de Slany 8 jeunes hommes. L'incident s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. Le groupe de 5 agresseurs âgés de 18 à 19 ans a successivement attaqué des jeunes hommes parmi lesquels il y avait des Roms. Il n'est pas exclu donc que le motif de l'agression ait été la haine raciale. Météo. C'est lundi, jour de la fête des Patriciens. Le temps est nuageux avec des pluies et des orages qui se sont produits notamment dans le nord et dans l'est du pays. Les températures maximales se sont situées dans la journée entre 23 et 27 degrés. Mardi, le temps en République tchèque sera nuageux avec des averses et des orages. Les températures maximales se situeront en Bohême entre 23 et 27 degrés. En Moravie, elles dépasseront encore 30 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme d'actualité de Radio Prague. Et merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, l'occupation ce week-end d'un des squats historiques de Prague, de la Villa Milada, et la nécessité d'une intervention de la police. Nous vous en dirons plus dans un instant. Direction ensuite la ville thermale de Karlovy Vary, où se déroule tout au long de cette semaine la 47e édition du plus grand festival du film en République tchèque. Nous nous entretiendrons avec Anna Kubišta qui est sur place. Dans la seconde partie de notre programme consacré au sport, nous vous proposerons le portrait de la gymnaste Viera Czaslavska. Très bonne écoute à toutes et à tous. L'un des squats historiques de Prague, la Villa Milada, a brièvement été occupé ce week-end avant que la police ne vienne interrompre la fête. Un happening, un concert s'y déroulait afin de commémorer l'évacuation du site et protester contre la gestion immobilière des autorités publiques. Dans la nuit de samedi à dimanche, près d'une cinquantaine de squatteurs ont été encerclés par des policiers deux fois plus nombreux et supplés par un hélicoptère. L'intervention des forces de l'ordre n'a pris fin que tard dans l'après-midi, car certains squatteurs avaient trouvé refuge sur le toit du bâtiment. Pierre Maignan nous en dit plus.
Désertée depuis 1988, la Villa Milada, située dans le 8e arrondissement de Prague, entre les quartiers de Troja et Dolechovice, a été squattée plus de 10 ans à partir de 1998. Le bâtiment, datant des années 1920, avait ainsi retrouvé une seconde jeunesse, en devenant un espace ouvert aux arts, accueillant régulièrement un festival antiraciste. Comme souvent, ces activités n'étaient pas du goût des voisins qui se plaignaient du bruit et du désordre. Aussi, la police avait-elle finalement violemment délogé les squatteurs en juin 2009. Les militants avaient donc organisé ce week-end un concert au sein de la villa en souvenir de cette évacuation et dans le but de dénoncer les autorités publiques, lesquelles n'ont engagé aucun travaux de réparation. Selon Jana Roslerova, la porte-parole de la police de Prague, l'intervention était inévitable du fait de l'hostilité des squatteurs.
Ils étaient très agressifs envers la police et ils n'arrêtaient pas de leur crier des mots vulgaires. Ils insultaient les policiers, leur ont balancé des bouteilles enflammées et des objets dangereux et les ont menacés d'une liquidation physique.
Pourtant, loin de cette terrible description, le comportement des squatteurs semblait relativement pacifique et bon enfant. Le groupe sur le toit s'est agrandi jusqu'à atteindre une vingtaine de personnes. L'une des figures de l'anarchisme tchèque, le journaliste et militant antiraciste Jakub Polak, les a rejoints. Quelques-uns avaient apporté des enceintes et des instruments de musique. Aussi, les quelques investives lancées aux représentants de l'ordre étaient plutôt humoristiques. Mais les protestants ont réellement souhaité adresser un message politique aux autorités, comme l'explique l'un d'entre eux.
Pour nous, c'était juste une action démonstrative pour montrer
que... Pour nous, il s'agissait d'une pure action de protestation visant à attirer l'attention sur le fait que cette maison a été évacuée il y a près de 3 ans et qu'il a été promis de la réparer. Elle n'a pas été réparée. Nous avons voulu montrer comment les choses sont gérées quand l'État est propriétaire.
4 squatteurs et 2 policiers ont été légèrement blessés suite à l'intervention. Le ministère de l'Éducation, propriétaire de la villa, n'a pour l'instant pas réagi. En février 2010, il était envisagé d'en faire don à l'université Charles. Le coût des travaux de réhabilitation est estimé à environ 10 millions de couronnes, soit près de 400 000 euros.
Vendredi dernier, s'est ouverte la 47e édition du Festival international du film de Carlo Vivari. Cette année, c'est la comédienne britannique Helen Mirren, connue notamment pour son rôle dans The Queen, qui est venue en donner le coup d'envoi et recevoir des mains du président du festival, Jerzy Bartoszka, un globe de cristal pour l'ensemble de sa carrière. Nous sommes en ligne avec Anna Kubiszta qui suit le festival sur place. Bonjour Anna, quel est le film qu'Helen Mirren présente au festival ?
Helen Mirren venait présenter à Carlo Vivari son dernier film, The Door, du réalisateur hongrois István Szabó. Comme elle l'a admis elle-même, l'histoire d'Emeren, servante âgée, fatiguée et dépeinte sans phare dans ce drame psychologique, a été le rôle le plus difficile de sa vie.
Anna, le festival propose également aux spectateurs les films d'un réalisateur français. De qui s'agit-il ?
Oui, en effet, dans le cadre du festival est également organisée une rétrospective, une grande rétrospective d'ailleurs, de l'œuvre du cinéaste français Jean-Pierre Melville, connu notamment pour ses films L'Armée des Ombres et Le Silence de la Mer, qui tous ont trait à la Seconde Guerre mondiale. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce sujet dans les jours à venir sur Radio Prague, puisque j'ai pu rencontrer sur place, ici à Carlo Vivari, Olivier Boller, spécialiste du cinéma de Melville, et qui a présenté dans le cadre du festival son documentaire Portrait, qui s'intitule « Sous le nom de Melville ».
Un autre point fort du festival, Anna, c'était la projection du célèbre film de Miloš Forman, Au feu les pompiers.
En effet, c'est samedi qu'a été présentée au public du festival la version restaurée du film culte de la nouvelle vague tchécoslovaque Au feu les pompiers de Miloš Forman. En tchèque, ça s'appelle Horima Panenko. Alors si évidemment la majeure partie du public connaît le film, celui-ci fait partie des grands classiques que tous revoient avec le même plaisir. Et la plupart justement des spectateurs considèrent que son histoire et son atmosphère restent toujours d'actualité.
Anna, que peut-on dire encore de la présence française au festival ?
Alors bon, comme vous le savez peut-être, puisqu'on a déjà eu un peu l'occasion d'en parler sur Radio Prague, pas de film français en compétition au festival du film de Carlo Vivari. En revanche, une bonne présence québécoise, puisqu'on parle du cinéma francophone, au festival de manière générale et en sélection officielle en particulier, puisque la tragédie intitulée « Camion » du Canadien Raphaël Ouellet est en effet en compétition officielle 3 ans après le premier passage du réalisateur à Carlo Vivari. Ce film raconte l'histoire du routier Germain, interprété par le comédien Julien Poulain, qui se retrouve malgré lui responsable d'un accident de la route dans lequel décède une jeune femme. Alors sa vie s'en trouve bouleversée et Germain va devoir parvenir à rebondir après cet événement tragique. Et puis alors à noter quand même, en dehors du documentaire dont je parlais tout à l'heure, consacré à Melville, un film français, en tout cas une coproduction française avec le Pakistan, puisque c'est un film qui se déroule au Pakistan qui s'appelle Noor et dont nous aurons l'occasion de reparler demain mardi sur Radio Prague avec les deux réalisateurs de ce film.
Merci Anna Kubichta, notre envoyée spéciale à Carlo Vivari. Je rappelle que le festival du film de Carlo Vivari se poursuit jusqu'au 7 juillet. Vous trouverez toute l'actualité du festival au www.kviff.com. La plus grande sportive tchèque de l'histoire, la gymnaste Věra Čáslavská, a fêté en mai dernier ses 70 ans. Multiple championne olympique, figure de la lutte contre le régime communiste en et après 1968, Věra Čáslavská a longtemps resté emmurée dans le silence suite à un drame familial dans les années 90, renaît depuis peu à la vie. Pour le plus grand plaisir de tous, Guillaume Narquet brosse son portrait.
Sport en République tchèque.
Emil Zatopek et Věra Čáslavská, tels sont les noms des deux plus grands sportifs tchèques de l'histoire. Mais si le nom de Zatopek, synonyme de course à pied, reste aujourd'hui encore connu dans le monde entier, celui de la gymnaste Čáslavská, septuple médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo et de Mexico en 1964 et 68, est lui un peu tombé aux oubliettes. La faute à un destin tragique et à une longue traversée du désert, dont celle qui était en 1968 la deuxième femme la plus populaire au monde après Jacqueline Kennedy, n'est sortie qu'il y a quelques années. Jeudi dernier, la légendaire Věra Čáslavská a fêté ses 70 ans et l'événement n'est pas passé inaperçu en République tchèque.
Věra se dostává na horní žetardolní, drží se statečně.
Ano, ne, dobře, bezvadně. Nespadla, Ježíši Maria, přátelé, to bylo nádherné.
Provedeš, Věro.
A stoj.
Plus de 40 ans après, l'enthousiasme des commentateurs de la radio tchécoslovaque de l'époque et la fascination du public japonais et mexicain pour cette jeune femme blonde de l'Est, aux formes élégantes et aux mouvements gracieux, sont encore bien présents dans les mémoires et n'appartiennent pas seulement aux rayons poussiéreux de l'histoire. Au moment de fêter son 70e anniversaire, Věra Čáslavská revient même plus que jamais sur le devant de la scène. La sortie jeudi dans les salles de cinéma tchèque d'un film documentaire intitulé « Věra 68 », la publication d'une biographie autorisée et plus généralement le grand intérêt des médias sont la confirmation de ce regain d'intérêt pour celle qui fut élue sportive mondiale de l'année 1968, année symbolique s'il en est. Film de 90 minutes, Věra 68, les envols et les chutes de la plus célèbre des gymnastes tchèques, Věra Čáslavská, traite de la carrière bien entendu, mais aussi du chemin de vie tortueux de cette dernière. Il est le fruit du travail d'Olga Somerova, une des meilleures réalisatrices tchèques actuelles de documentaires.
ten její osud je právě dramatický tím, že ty její pár.
Le destin de Viera est tragique parce qu'il est marqué par deux grandes chutes qui ont toujours fait suite à deux grands envols. Il y a d'abord eu une injustice politique après 1968, puis une injustice judiciaire dans les années 1990. Bien entendu, cette vie tragique, c'est une bonne chose pour une documentariste comme moi. Mais le thème du film, c'est aussi Viera, cette femme qui a représenté et fait connaître ce petit pays qui était la Tchécoslovaquie dans le monde entier. Surtout, elle a été un modèle pour la nation tchèque. Par ses actes, elle a démontré qu'il était possible de dire non au diable. Elle a résisté à la tentation du diable communiste en refusant de retirer sa signature du manifeste des 2000 mots.
Viera Czeslavská, la gymnaste, ce sont d'abord 140 médailles, dont 11 olympiques et 7 d'or, 4 titres de championne du monde et 11 de championne d'Europe, tout cela sans compter l'ordre du soleil levant remis par le Japon. C'est aussi une médaille qui brille plus encore que toutes les autres réunies, une médaille obtenue aux Jeux de Mexico qui la fit alors entrer dans le cœur d'un grand nombre de Tchécoslovaques. Vainqueur à égalité du concours à la poutre, c'est en effet le regard détourné que Czeslavská écoute l'hymne soviétique joué en l'honneur de la co-championne olympique.
S tím prvním tónem ty hymny absolutně.
Dès la première note de l'hymne soviétique, l'hymne du pays dont l'armée occupait notre pays, j'ai tout à fait inconsciemment baissé la tête. C'est un geste qui est venu naturellement de l'intérieur, du fond de mon âme et de mon cœur.
Car Viera Czeslavská est aussi une femme qui a eu le courage de ses idées et de ses prises de position. Figure du printemps de Prague, signataire du manifeste des 2000 mots, une critique radicale du régime communiste publiée dans la presse qui condamnait l'ingérence soviétique en Tchécoslovaquie, Viera Czeslavská a longtemps souffert à son retour de Mexico de persécutions politiques. Il fallut attendre la révolution en 1989 pour que la martyre sportive, ancienne ennemie de la nation, qui apparaît alors au balcon aux côtés de Václav Havel lors des manifestations à Prague, retrouve la lumière. D'abord conseillère du président Havel, présidente du comité olympique tchécoslovaque, puis tchèque, celle qui refuse les postes d'ambassadrice au Japon, de ministre des Sports ou encore de maire de Prague, accumule les fonctions de prestige au début des années 1990. Mais cette époque euphorique est aussi marquée par un drame familial. En 1993, son fils, Martin, tue son mari, duquel elle avait divorcé quelques années plus tôt, lors d'une bagarre dans une soirée trop arrosée. 3 ans plus tard, Martin est condamné à 4 ans de prison, et malgré la grâce présidentielle accordée par Václav Havel, une décision qui donne lieu à une immense vague de protestations dans tout le pays et à une nauséabonde campagne de presse, Viera Czeslavská plonge dans une profonde dépression et un long silence qu'elle ne brisera que plus de 10 ans plus tard. Déjà proche de Czeslavská avant le drame, puis de nouveau pendant les 2 années qu'a nécessité la réalisation de son film, Olga Somerová tente d'expliquer cette inexorable descente aux enfers.
La dépression est la plus douloureuse des maladies qui existent. Viera n'a donc profité de rien pendant toutes ces longues années. Elle était dans un isolement involontaire. Toute sa vie a été extrêmement exigeante, nerveusement. La volonté hors du commun que possède Viera a fait qu'elle s'est toujours engagée personnellement. Il y a d'abord eu sa carrière sportive longue de 11 ans, les 2 Olympiades qui ont apporté une gloire mondiale qui lui a fallu assumer, puis ses prises de position contre le régime communiste qui lui ont valu d'être mise en marge de la société. Après 1989, Václav Havel l'a invitée à travailler avec lui comme conseillère au château de Prague, un travail qu'elle a pris très à cœur comme toujours. Puis quand est arrivé quelques années plus tard le procès injuste de son fils, sa condamnation, elle s'est effondrée. Personne n'imaginait alors qu'elle ressortirait de l'ombre un jour.
Nic si neužívala. Nikdo si nepomyslel, že z toho ještě vyjde ven.
De cette profonde et longue dépression, Viera Czeslavská en est pourtant sortie. Une première fois en public en 2009, lors de la cérémonie pour l'élection du meilleur sportif tchèque de l'année, elle est alors acclamée par la salle debout. Depuis, les apparitions de l'ancienne gymnaste se font de plus en plus fréquentes et lors des Jeux Olympiques de Londres l'été prochain, Viera Czeslavská jouera même de nouveau le rôle d'ambassadrice sportive qui aurait toujours dû être le sien.
Já tam budu trošku za takovýho jako medvěda. Budu tam trošku tak nějak se představovat.
Je serai là-bas un peu dans le rôle d'un ours ou d'une bête de foire que l'on montre aux autres, mais cela ne m'empêchera pas d'aller voir les épreuves dont je sais qu'elles seront exceptionnelles. Même si le plaisir est aussi de voir certaines disciplines dont on n'a pas l'habitude, mais ce que je ne veux pas manquer, c'est le concours du javelot féminin. Je suis sûre que Barbora Špotáková va gagner et conserver son titre. Mais j'irai voir aussi, par exemple, les épreuves d'aviron ou de tir, car nous avons de grandes chances de médailles et je porte chance aux autres.
Je vais voir les veslaře a na střelce a tak. A já totiž nosím druhým lidem štěstí.
Une chance que les autres n'ont donc pas toujours portée à Věra Čáslavská, ce qui ne l'empêche néanmoins plus aujourd'hui, à 70 ans, alors qu'elle renaît littéralement à la vie, de profiter pleinement de l'instant présent, comme en témoigne son enthousiasme intact pour le sport de son cœur.
Je supporte une gymnaste japonaise qui s'appelle Rie Tanaka. C'est une très belle fille qui a des allures de vraie femme. C'est un retour à une certaine féminité dans le sport. Ce n'est plus un cirque de puces, rien que des petits enfants avec des mains et des jambes. Vous savez, les gens me disent souvent, à votre époque, vous étiez des femmes. Mais aujourd'hui, les gymnastes ne sont plus que des enfants et les regarder ne nous dit plus rien.
Une gymnaste enfant que Věra Čáslavská, femme de conviction, c'est sûr, n'a jamais été.
C'est la fin, chers amis, du programme de Radio Prague en français. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.